Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. L'anonymat, c'est un sujet récurrent, voire permanent, d'interrogation dans la culture web. Il y a presque 10 ans déjà, alors qu'on n'avait pas encore pris à 100% le tournant des réseaux sociaux, Eric Schmidt, qui était le PDG de Google, prédisait la fin prochaine de l'anonymat en ligne. Pourtant, se planquer pour tout un tas de raisons derrière un pseudo ou une identité fictive pour ses activités en ligne, ça n'est toujours pas une pratique du passé. La preuve, Emmanuel Macron y a directement fait référence il y a quelques jours lors d'un face-à-face avec les élus du Lot.
Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. Et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses.
Évidemment, on a immédiatement dégainé le vieux débat sur l'ère du faut-il ou pas interdire l'anonymat. Mais nous, ce qui nous interroge, outre la simple possibilité technique, légale, d'imposer ce changement de pratique, c'est la raison d'être de l'anonymat ou du pseudonymat, de la dissimulation de son identité sur le net. Qui sont ceux qui y ont recours ? Pour faire quoi ? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça existe réellement, l'anonymat en ligne ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, j'ai invité ma camarade Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe du site Numérama, spécialiste des usages numériques, à venir faire un tour dans nos studios et à prendre le sujet de front en lui demandant tout bêtement à quoi ça sert l'anonymat sur le web.
Non, l'anonymat, ça sert à tout le monde. Ça sert à toi comme moi qui n'avons pas envie d'être identifiés partout avec nos noms et nos prénoms. Alors je dis toi comme moi. Toi, je sais pas, moi, je fais tout sur mon nom, avec mon nom public, parce que j'ai toujours la crainte d'avoir un compte Twitter privé où je dis n'importe quoi et puis finalement, il y a forcément des screenshots qui vont sortir à un moment ou à un autre. L'anonymat, ça sert à Laurent Deutsch pour tracher la moitié de la planète. Donc Laurent Deutsch, il s'est quand même fait épingler par une enquête de BuzzFeed News. Qui a réussi à retrouver un compte Twitter qui lui a été attribué et sur lequel il se lâchait complètement. C'était franchement de manière injurieuse. Et ça prouve vraiment que l'anonymat n'existe pas vraiment sur Internet. Ou alors, 1% de la population réussit vraiment à être à maîtriser assez bien les outils d'Internet pour s'anonymiser. Aujourd'hui, tu vois, les gens qui ont cyberharcelé Nadia Dam, par exemple, on leur a montré qu'ils pouvaient être identifiés très facilement avec une adresse IP. Y a des techniques pour s'anonymiser vraiment sur Internet, utiliser un VPN, par exemple, un proxy. Mais c'est des choses qui, finalement, sont accessibles à une partie infime de la population. Donc, aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook, la majorité des gens, que ce soit des commentaires élogieux ou des insultes, sont faits sous des vrais noms. Et c'est un peu ça, la limite, à ce que Emmanuel Macron dit, en pensant que une fois que tout le monde sera sous son vrai nom, il n'y aura que des gens gentils sur la planète. Ça ne va pas vraiment se passer comme ça, quoi.
Culturellement, dans le milieu du web, il y a quand même une habitude au pseudonyme et à l'anonymat. C'est quelque chose qui fait partie de la culture web, quelque part.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment avec les réseaux sociaux ont changé. On commençait à demander les vrais noms et les vrais prénoms des gens, notamment Facebook en 2014. Mais à la base, Internet, creuse, enfin puise un peu sa source dans l'anonymat et le côté complètement chaotique de on s'installe, on est derrière un ordinateur et personne peut vraiment savoir qui on est. Évidemment, il y a toujours cette caricature. J'ai regardé la date de la caricature du New Yorker qui dit quand on est sur internet, personne ne sait qu'on est un chien. Elle date de 93. Donc oui, ça a fait exploser mon cerveau. mais depuis, c'est marrant parce que tu peux un peu voir l'évolution de l'anonymat sur internet à travers l'évolution de cette caricature qui a été reprise. Donc je crois qu'à un moment, quelqu'un l'a reprise en disant sur internet, personne ne sait que je suis un chien sauf mes 273 amis Facebook. Ensuite, il y a eu sur internet, personne ne sait que je suis un chien mais tout le monde sait que je suis un connard. Et pour finir, il y a eu la dernière caricature il y a 2 ans, c'était sur ces deux chiens qui discutent et disent tu te souviens quand on savait pas qu'on était des chiens. Et ça montre un peu l'évolution de l'anonymat sur internet et comment ça s'est passé. Il y en a beaucoup qui le regrettent, ce temps un petit peu alors je dirais vraiment idéalisé pour le coup, parce que c'est un espèce d'idéal de on était sur des forums et puis on échangeait et puis c'était bien, personne se connaissait. Après moi dans les années 2000, j'étais sur des forums d'Alias sous pseudo, la série Alias, excellente série.
Tout à fait.
Avec Jennifer Garner. Et quand j'étais sur ces forums d'Alias, j'aurais pu être sous mon vrai nom, en fait. C'est juste que il se trouve que j'étais mineure, ça rassurait mes parents. Il y avait aussi cette dimension-là de savoir, on ne savait pas vraiment avec qui on discutait, c'est-à-dire on ne savait pas non plus quel âge avaient les personnes en face. Il y avait beaucoup de paranoïa. Je ne sais pas si tu as vu passer ce tweet, il y a des gens qui disaient, nos parents il y a 20 ans, qui disaient, ne croyez rien de ce qu'il y a sur Facebook, et nos parents maintenant, Macron va vendre la France à l'ONU, partager en masse. Et c'est vraiment le changement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence de génération et même dans l'appréhension, l'approche de l'anonymat. Moi, ma mère, elle n'est pas du tout anonyme sur Internet. Hein. Enfin, je suis sûre qu'elle a mis ses numéros de carte bancaire n'importe où. Tout le monde sait qui est Béatrice Turcan sur Internet. Hein. Donc...
Il y a une dimension qui, moi, m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'on a perdu, par contre, en cours de route, cette manière qu'on avait de développer une personnalité virtuelle sur le web, qui peut-être irritait, moi, de ma culture jeu vidéo, mais qui était quelque chose qui existait vraiment très fort dans la culture web originelle, on va dire, mais qui, pour le coup, est en train de disparaître un petit peu.
J'ai pas l'impression que quand on supprime l'anonymat, tu supprimes ta personnalité alternative, parce que je suis pas persuadée qu'on soit vraiment les mêmes personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que toi et moi, face à face, moi sur Twitter, je contrôle extrêmement ce que je dis, par exemple, ou sur Facebook également. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y a quand même un côté personnalité construite. Si tu vas sur Instagram, même les gens qui sont sous leur vrai nom, c'est de la construction également. Ce qu'il y avait avant, sans les pseudos, avec des pseudos, c'était peut-être du contrôle, mais plus d'épanouissement personnel, peut-être un peu plus de jeu. Peut-être cette question je peux faire ce que je veux et je suis pas obligée. C'est du mensonge, mais c'est un autre type de mensonge.
Il
y avait quelque chose de plus ludique.
Il y a un élément très important qu'on oublie souvent dans cette grande discussion qui a cours médiatiquement autour de l'anonymat et du pseudonymat, c'est que l'anonymat, historiquement, pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, a aussi permis à des lanceurs d'alerte de se protéger, de faire éclater des dossiers assez sulfureux. Je pense à Edward Snowden qui, au début, était connu sous un alias avant que son vrai nom ne sorte. Ça a aussi cette vertu-là, quelque part. Ça peut servir de bouclier de protection.
C'est vrai que c'est un point intéressant et évidemment quand on entend Macron aujourd'hui dire il faut supprimer l'anonymat ou lever l'anonymat, et forcément on se dit est-ce qu'il a pas envie un tout petit peu aussi de faire taire ces possibles lanceurs d'alerte, est-ce que c'est pas une manière un peu de retirer de la protection? On voit aujourd'hui la grande bataille que le FBI mène avec Apple en leur demandant de déverrouiller des iPhones alors que Apple dit non, notre technologie est faite pour chiffrer toutes les données. Ce qui est intéressant avec les lanceurs d'alerte, il y a le mouvement Anonymous qui était tout début des années 2010, qui s'est lancé sur ce modèle en fait, oui, d'anonymat complet, et tu en tirais le meilleur comme le pire, c'est-à-dire qu'il y avait ils se sont regroupés ensemble pour faire tomber l'église de la scientologie, mais ils se sont aussi regroupés pour faire des attaques en DDoS sur des sites qui étaient juste pas d'accord avec leur manière de voir les choses, ou des sites anti-piratage par exemple. Donc ça, cet anonymat-là a permis de voir éclore des mouvements sociaux qui en plus se sont un peu traduits dans la vraie vie également. Mmh. Il y a eu des manifestations de gens anonymous avec derrière un masque, mais aussi bah, le meilleur comme le pire, tu as encore aujourd'hui des raids informatiques, c'est-à-dire des espèces de campagnes de harcèlement qui sont lancées depuis 4chan, le fameux sulfureux forum imageboard sur lequel des anonymes se montent la tête ensemble et se convainquent de faire des choses qui ne sont pour le coup pas très bonnes.
Petite parenthèse pour préciser, 4chan c'est un forum qui se base sur l'anonymat, c'est un pilier de la culture web qualifié tour à tour de trublion ou de poubelle du web. C'est sur ces pages que sont nés notamment, on va en reparler, les Anonymous, mais c'est aussi un catalyseur de tout un tas de complotistes, de mèmes racistes et sexistes, bref, de dérives assez rudes. Le pendant francophone de 4chan, même si c'est assez différent, c'est le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com, d'où sont parties quelques affaires assez médiatisées de cyberharcèlement. Ça aussi, on va en reparler avec Marie dans quelques instants.
Je ne suis pas persuadée qu'on a eu un vrai changement depuis ces 10 dernières années sur la manière dont ces outils sont utilisés. Et ceux qui veulent rester anonymes, ceux qui veulent faire des raids et en restant anonymes, auront toujours les moyens de le faire, auront toujours la technologie abordable.
Par contre, il y a eu un changement de la perception, parce que j'ai souvenir qu'il y a quelques années, les Anonymous étaient vus de manière assez positive, comme une forme de contre-pouvoir, notamment vis-à-vis des États-Unis, d'une certaine forme de politique américaine. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. On les voit, au contraire, comme des trolls, comme plutôt affiliés à l'extrême droite, plutôt des perturbateurs assez désagréables, quelque part, de la vie numérique.
Ouais, c'est un peu le souci. Moi, je me fie pas mal. Quand j'étais, il y a du coup 10 ans, quand Titiou Lecoq faisait son blog Girls and Geeks, elle aimait beaucoup 4chan. Et donc, là, on parlait beaucoup en bien. Et moi, j'avais une vision assez positive de 4chan à travers ça, en disant bah, c'est quand même un bel espace de liberté. Oh, et en plus, on s'entraide. S'il y a des menaces de se donner la mort, les gens s'entraident entre eux et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils ont fait des actions mauvaises, ça a pris le pas. Et t'as raison, la balance et de l'opinion publique a basculé. Alors, je ne sais pas à quel moment précisément elle a basculé. Peut-être quand, en fait, ces trolls, j'aime pas ce mot, ces personnes malveillantes s'en sont. On commençait à s'en prendre aux journalistes, à s'en prendre à des personnalités vraiment faibles, à créer des choses, des espèces de choses néfastes sans aucune ambition plus grande derrière. Enfin, l'ambition de Anonymous au début des années 2010, c'était valoriser le piratage et dire bah, comme ça la culture est accessible à tout le monde. Il y avait quand même si on est contre, il y avait quand même une idée un petit peu grandiloquente derrière.
Oui, il y avait une démarche un peu libertaire.
Alors que je pense qu'à partir du moment où il y a eu où le forum, c'est un peu l'image board, c'est un peu gangréné comme ça et entraîné tout seul dans cette espèce de boule de méchanceté et de haine. C'est à ce moment-là que l'opinion publique a basculé. Et peut-être aussi les journalistes qui ont découvert ce truc. Parce qu'au final, il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup moins connu. Que ce soit jeuxvideo.com, le forum 18-25 ou 4chan, qui sont quand même assez différents, on a un changement médiatique qui est aussi apparu parce que un mauvais article entraîne un mauvais article qui entraîne un mauvais article et après ça devient un peu un amas où on n'arrive plus à différencier les choses. Et après c'est un peu le principe de l'anonymat, c'est que tu sais pas vraiment qui est qui. Donc ça devient une masse. Je sais qu'il y a j'ai oublié son nom, qui a écrit un livre sur les anonymous et qui appelait ça un labyrinthe. Et c'est vraiment tu peux pas t'en sortir, tu peux pas vraiment déceler une tendance, c'est plus des individualités qui se mettent ensemble et ressurgissent quelque chose. Est-ce que ça ressurgit positivement, est-ce que ça ressurgit négativement? Aujourd'hui, tu as le mouvement des Gilets jaunes, quasiment personne n'est anonyme, mais on ne sait toujours pas bien comment identifier ce mouvement. Donc, est-ce que c'est vraiment lié à l'anonymat? Je ne suis pas persuadée.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de ces espaces très précis, que peuvent être 4chan ou certaines zones un peu infra comme ça d'Internet, l'anonymat sur le web pour le grand public n'existe plus vraiment?
L'anonymat pour le grand public n'existe pas, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment existé pour le grand public. Je pense qu'il y a une méconnaissance, il y avait une impression de liberté totale et de pouvoir se cacher derrière un écran et sous prétexte qu'on est sous pseudo, mais c'est juste ne pas vraiment bien connaître les outils d'Internet, de ne pas vraiment savoir que tu sois sous pseudo ou pas sous pseudo. Facebook, c'est tout ce que tu fais, il connaît tous tes contacts, il connaît ton numéro de téléphone parce que ton troisième neveu par alliance l'a mis un jour sur Facebook. Il y a zéro anonymat pour vraiment, en fait, tout, ils sont capables de recouper tout ça. Et c'est vrai que ce débat sur l'anonymat, il cache, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est une manière de très facile de dire, bah, si on n'a rien à cacher, pourquoi est-ce que... C'est toujours ce fameux rien à cacher qui est extrêmement simpliste, au lieu de remettre en cause le fait qu'on a trois entreprises qui ont le monopole sur toutes les données, qui savent tout de vous, que ce soit privé ou public, que c'est quand même hyper facile de retrouver un faux compte Twitter aujourd'hui et de savoir à qui il appartient vraiment. Donc non, l'anonymat n'existe pas vraiment. C'est un bon... j'en pense un peu une porte ouverte. Mais je ne sais pas vraiment ce que Macron a essayé de faire. Je ne pense pas qu'il soit dupe au point de se dire que ça va vraiment marcher, qu'il y ait vraiment la possibilité de lever l'anonymat. Je pense qu'il a bien conscience que techniquement, ce n'est pas vraiment possible aujourd'hui de contraindre les entreprises à lever cet anonymat-là.
Évidemment, sur toutes ces questions, il est nécessaire d'avoir un regard juridique. Parce que forcément, lorsqu'on use et surtout qu'on abuse des possibilités offertes par l'anonymat, on peut se retrouver confronté à la loi. Pour en causer, il nous fallait une pro. J'ai donc appelé Maître Clara Benyamin, qui est avocate, qui par ailleurs est la patronne du podcast Besoin de rien, envie de droit, lui aussi estampillé Binge Audio. Pour démarrer, j'ai demandé à Clara ce que ça recouvrait légalement l'anonymat et le pseudonymat.
Donc l'anonymat et la pseudonymat sur Internet, ça peut couvrir énormément de situations, mais on va pas se mentir, c'est quand même principalement de l'injure et de la diffamation. Qu'est-ce que c'est l'injure et la diffamation ? Évidemment. Alors, en très 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 rapidement, l'injure, c'est une parole, un écrit ou une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Ça, c'est assez clair. Et la diffamation, c'est trois trucs. C'est une allégation, un, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, deux, et cette personne est identifiée ou identifiable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle peut être reconnue potentiellement, notamment par un recoupement d'informations et par des gens qui la connaissent. Et donc, on s'est complètement éloigné du sujet, mais il fallait un peu définir ça.
Il faut le définir avant.
Ouais, il faut définir ça. Et donc, du coup, les problématiques d'anonymat et de pseudonymat, c'est souvent sur des cas d'infamation ou d'insultes et d'injures. Sur Internet, par exemple, vous allez recevoir un tweet envoyé par... je sais pas moi, Paco23, dont l'emoji Toto42, dont l'avatar est un n'importe quoi, un dessin, et qui n'est pas traçable. Et cette personne va vous dire quelque chose de pas très sympa, qui sera une diffamation ou une injure. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors légalement, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est toujours d'aller devant un juge, parce que, très important, le juge judiciaire dans la Constitution, c'est le garant des libertés individuelles. Donc c'est une autorité légitime pour dire qu'on va réduire votre liberté, notamment donc là la liberté d'expression, oui. Et aller déterminer qui est la personne qui a dit tel truc. C'est très important. La police ne peut pas toute seule lever la pseudonymat de quelqu'un. Il y a une garantie, il y a un bouclier constitutionnel qui est le juge judiciaire et qui est la seule personne qui est capable de donner cette autorisation.
Donc ça, c'est en gros le chemin technique légal pour faire lever l'anonymat de quelqu'un aujourd'hui.
C'est ça.
Mais on ne peut pas pour l'instant dire qu'il y ait quoi que ce soit dans la loi qui permette d'interdire d'être anonyme en France.
Non, et en plus, c'est... Il n'y a pas vraiment de raison. C'est-à-dire qu'à la base, le fait de recourir à un pseudo, ça ne fait pas de toi un grand criminel. Enfin, on a tous eu des messageries, des trucs comme ça. C'est rigolo, en fait, un pseudo. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
Non, ce n'est pas forcément qu'on est dans une optique de conspiration ou d'agression des gens sur Internet.
Tu vois, quand tu portes un masque à une soirée déguisée qui est un masque de Mickey, ça ne fait pas de toi un dangereux criminel. Quoi.
Effectivement. Est-ce que... l'anonymat sur le web, en gros, ça ne protège pas de grand-chose.
Non, c'est juste que tu vas être un peu plus long à identifier éventuellement.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut ne pas être identifié, justement ? Il y a des techniques pour ça, aux yeux de la loi.
Alors, pour vous débarrasser d'un corps, comment on fait ? Non, par contre, il est vrai que si jamais une personne a très envie de vous dire quelque chose de pas très sympa via Twitter, qu'elle va dans un cybercafé, qu'elle paye en liquide, qu'elle envoie... un tweet qui est genre « Hey, machin, t'es grosse !» et que, donc voilà, bon, un truc évidemment pas très sympa, mais qui est ni une menace sur votre vie assortie de votre adresse, ni un truc comme ça, et que cette personne s'en va du cybercafé et que le compte qu'elle a utilisé a été créé grâce à une adresse poubelle. Enfin, ouais, là, ça va être très compliqué de vous retrouver. Oui. Mais
et a priori, bon, on peut quand même vous retrouver. Qu'est-ce qu'on risque si on déconne, même en étant anonyme ?
Alors, je me permets juste de reprendre le terme déconner. C'est pas déconner, c'est commettre une infraction.
Si on commet une infraction.
Voilà, moi, quand je déconne, je bois trop en semaine.
Tu peux potentiellement commettre une infraction à cette occasion, mais ça n'est pas la question.
Ça dépend laquelle. Oui, effectivement, c'est pas la question. Alors, si jamais on se rend coupable d'un fait de diffamation ou d'injure, tout d'abord, le fait de le faire sous pseudonymat, enfin sous pseudonyme, n'est pas un caractère aggravant. Éventuellement, il peut y avoir une usurpation d'identité et ça sera une autre infraction en plus.
Si on prétend être quelqu'un d'autre.
Si on prétend être quelqu'un d'autre, mais juste le fait de le faire sous pseudonyme, c'est pas un caractère aggravant. Et donc, pour la diffamation ou l'injure, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, on risque des amendes, tout d'abord. Donc, là, je vais parler que de diffamation publique. La diffamation privée, c'est dans un cercle restreint de personnes, mais donc, et qui partagent un centre d'intérêt commun, blablabla. La diffamation publique, donc, c'est quand des propos sont tenus et qu'ils sont accessibles librement. Pour faire très 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 simple.
Donc typiquement sur les réseaux sociaux par exemple.
Sur les réseaux sociaux de façon publique. Pour une diffamation publique simple, donc je vais dire après ce qu'est une diffamation publique pas simple, mais par défaut c'est une amende de 12 000 euros. Si c'est une diffamation publique raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe ou tout en même temps, hein, si vous êtes très très motivé.
Ce qui est donc aggravant, considéré comme aggravant.
Voilà, c'est... jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Tout ce que je vous dis là, c'est des seuils maximaux. Et la diffamation publique contre un élu, un policier ou un magistrat, ou un parlementaire ou quelque chose comme ça, en raison de ses fonctions. C'est très important, c'est-à-dire que si votre voisin est magistrat et qu'il met sa poubelle n'importe comment et que vous faites un tweet qui dit « ce salaud de Jean-Michel du 3e a mis sa poubelle n'importe comment », vous ne l'insultez pas en tant que magistrat, vous l'insultez en tant que votre voisin.
Oui. Donc, par contre, si vous dites « ce salaud de Jean-Michel ne condamne que les femmes ou ne condamne que les noirs », là, vous pouvez potentiellement tomber sous le coup de la loi.
Voilà, sous le coup de la loi, et là, ça va être 45 000 euros d'amende. Et évidemment, ça s'applique si vous êtes inspecteur du travail ou douanier, ou on s'en fiche. et en plus de tout ça, donc en plus des peines d'amende d'emprisonnement que je viens de lister, donc ça, c'est une somme qui sera payée à l'État et peut y avoir en plus des dommages et intérêts
à payer à la
victime. Et ça, donc tout ça, c'était la diffamation. Et pour l'injure classique, c'est jusqu'à 12 000 euros. L'injure raciste, sexiste, homophobe et ou handiphobe, c'est pareil, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende maximum. Et comme tout à l'heure, d'éventuels dommages et intérêts à verser à la victime.
J'imagine qu'il y a de plus en plus d'affaires dans ce cas-là. Toi, notamment, il y a dans l'actualité quelque chose qui a retenu ton attention, c'est ce qui se passe avec le jeune chanteur et danseur Bilal.
Bilal Hassani, ma star. d'ailleurs, il y a une photo de lui avec Mariah Carey qui circule sur Internet et où les gens commentent sur cette photo, une star et Mariah Carey.
Et Mariah Carey. Magnifique.
Magnifique. Bilal qui, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore, mais va peut-être représenter la France à l'Eurovision.
Bon, depuis, si vous avez suivi l'actu, vous savez qu'effectivement, Bilal Hassani sera bien celui qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision.
Donc, le jeune Bilal Hassani a reçu, du fait de sa candidature à l'Eurovision, et même avant, mais là, disons qu'il avait une exposition
médiatique plus forte,
plus importante, il a reçu des tsunamis de messages de haine, de menaces, de choses comme ça, et des associations LGBT et anti-homophobes se sont dit... Avec le concours de M. Hassani, avec donc son aide et son accord, se sont dit on va le laisser gérer son Eurovision et ses trucs, et puis on va s'en occuper, nous, en fait, de poursuivre devant la loi, devant des juges, la totalité des gens qui ont envoyé des messages à Bilal pour l'insulter et le menacer, le tout avec nos 143 avocats. Et je trouve ça
qui est
super.
Donc le vrai chiffre, hein. Ils ont vraiment 143
avocats. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ce que j'ai lu. Et donc j'imagine, tu sais, une armée d'avocats avec leur robe d'avocat qui marche telle une force inarrêtable, et je trouve ça super.
Assaut légal en vue sur les trolls, de quoi alimenter un prochain épisode, on le garde dans un coin de notre tête. Merci à Marie Turcan et Clara Benjamin pour leurs réponses. Je vous renvoie une nouvelle fois au podcast de Clara, Besoin de rien, Envie de droit, qui est donc un podcast de Binge Audio, tout comme Programme B, qui lui est préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, Programme B @binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.